Dans le livre des Actes, au 20e chapitre, et nous allons considérer ce matin Christ, notre rédemption dans l'Église locale. Et nous sommes ici une Église locale où est-ce que vraiment tellement de choses se passent dans la vie chrétienne dans une Église locale. Tous les uns les autres, se supporter, prier les uns pour les autres. Il y a toutes sortes de... Et là, on a l'exemple d'une église comme ça, comme la nôtre, mais il y a juste 2000 ans d'ici. Il y a des petites différences, on pourrait dire. Il y a des choses essentielles qui sont toujours là. Vous savez, la nature humaine, le 6000 ans, le 4000 ans, le 2000 ans, toujours pareil. Culture différente, même nature humaine. Et j'aimerais juste qu'on relise, parce que pour ceux qui étaient là, ce matin, on a lu le chapitre au complet, mais on va lire les versets 25 à 35 pour s'introduire avec ce qu'on va considérer ce matin dans ce texte. Donc, acte 20-25, c'est Paul ici qui parle. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc! Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai annoncé de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » J'aimerais qu'on prie avant de regarder ensemble ces choses-là en tant qu'Église locale, justement, ensemble, plonger les regards dans la parole de Dieu. Seigneur, on vient à toi parce que on a tellement besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à nous en rendre compte à quel point. Seigneur, brise cette autosuffisance, brise cette sagesse charnelle, cette sagesse qui est d'en bas. Et Seigneur, qu'on puisse être motivé par la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut. Que Seigneur, ce soit la force qui nous propulse vers l'avant. Seigneur, l'Église a toujours été composée de gens très différents. Dans le début de l'Église, c'était des Juifs et des païens. Maintenant, on a des gens de toutes sortes de pays, de toutes sortes d'arrière-plans, de tous les âges. Mais Seigneur, merci que nous sommes un en Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut porter les regards sur toi alors qu'on s'apprête à plonger nos regards dans ce texte béni de ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Fais ta volonté, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, Christ, la rédemption dans l'Église locale. Et ce beau passage du livre des Actes, j'aime beaucoup le livre des Actes. C'est un peu comme si on voyait une photo avec ce qu'on a, on a lu en particulier de ce qui se passait dans l'Église locale et dont aussi un de ses leaders importants, l'apôtre Paul, qui vraiment parle au cœur de ces gens-là. C'est un leader qui parle à d'autres leaders, mais pensons pas que si... on n'est pas un leader dans l'Église que ça, le chapeau ne nous fait pas. En fait, il y a tellement de vérités là-dedans, dont une, d'ailleurs, je pense que ça a sorti aussi dans le temps de prière ce matin. Mais au verset 24, on ne l'a pas lu, mais je le lis maintenant. Paul qui dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ici, on voit vraiment ce leader, Paul, qui avait vraiment une motivation altruiste, qui était, on peut dire, il vivait l'abnégation, il faisait pas un coup de lui-même. Christ était sa vie, on apprend ça dans Philippiens 1:21. Et on peut voir aussi que avec cette relation qu'il avait avec les leaders, qu'on voit comment Jésus-Christ avait un impact profond sur les relations qui étaient vécues dans ces églises-là. Jésus est venu restaurer. Jésus qui est le Rédempteur. L'idée de Christ, notre Rédempteur dans l'église locale, c'est l'idée qu'il restaure, il refait en mieux. Des gens qui ont eu des relations brisées dans le passé, des gens dans le sein, au sein de l'église locale qui peuvent avoir eu des difficultés au niveau personnel, des fois les uns envers les autres. Le Seigneur au milieu de nous autres est celui qui restaure, celui qui refait en mieux, qui libère. Et c'est ça que j'aimerais qu'on considère ensemble. Et plus particulièrement, vous savez, je dirais depuis les deux dernières années, mais même encore plus récemment, le Seigneur fait beaucoup un travail de révélation. Hein, le Seigneur nous dit hein, dans Daniel 2:22, il révèle, en parlant de Dieu lui-même, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dernièrement, vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour révéler toutes sortes de choses dans nos vies, nos cœurs et notre Église. Et je dirais qu'une qui est importante, que je veux qu'on s'arrête ce matin, c'est nous libérer de la culture, une culture d'Église fausse et mondaine, qui dit que tout le monde est beau, tout le monde est parfait, on n'a pas de problème, puis on vient à l'Église avec une espèce de masque. Je suis content qu'à travers les deux dernières années, le Seigneur de plus en plus nous libère pour qu'on ait la liberté d'être vrai, la liberté d'être faible, la liberté de ne pas toujours avoir tout correct. Pourquoi? Parce que Christ est notre identité. Et vraiment, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que tout tourne autour de Christ lui-même. Si Christ est mon identité, je n'ai plus rien à prouver aux autres. Puis, c'est sûr que c'est pas l'idée que je vis de façon désinvolte, à me dire, ben, je m'en fiche de tout, puis je vis n'importe comment. Mais j'ai pas ce stress, cette pression de performer, puis d'essayer d'être à la hauteur de ce que les autres peuvent m'attendre, s'attendre de moi. Mais je peux, puis ça, c'est quelque chose de précieux. Je peux être vrai quant à mes luttes, quant à ce que je peux vivre, à ce que d'autres peuvent vivre, puis se supporter les uns les autres. C'est tellement précieux. Et savez-vous quoi? Je prends un message au complet pour regarder ça ensemble, parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est ressorti, non seulement, puis c'est pour ça que dans notre passage, on parle du leadership de l'Église aussi, mais dans cette culture, puis c'est ressorti ce matin dans le temps de prière, hein, c'est nous libérer de l'hypocrisie puis tout ça, mais dans cette culture d'Église, fausse et mondaine, il y a aussi une pensée qui dit que, ça ne le dit pas nécessairement directement de même, mais le leadership de l'Église, le pasteur, est là pour régler les problèmes des personnes et que lui et sa famille ne sont pas supposés avoir de problème. C'est jamais dit de même, mais il y a une espèce de sous-entendu, un non-dit, puis ben, eux autres, ben oui, ils sont qualifiés eux autres pour le ministère, puis, OK? Savez-vous que Satan prend souvent des choses vraies puis il les déforme? Parce que c'est vrai qu'il y a un rôle pastoral. Hein, la Bible dit que le pasteur est là pour paître le troupeau. Hein, Jésus a dit ça à Pierre. Puis dans les qualifications pastorales, l'état spirituel de la famille est considéré, c'est important. Ça dit que le pasteur, l'évêque, l'ancien doit bien diriger sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Donc, ça part de choses qui peuvent être vraies, mais ça les amène plus loin. Satan est bon là-dedans, il déforme, il imite, puis il change le plan original de Dieu, puis il en fait quelque chose de mauvais et de destructeur. Et là, ça donne dans nos églises une culture dominante qui produit des personnes qui s'attendent, bon là, je parle au niveau pastoral, mais même dans nos relations mutuelles, à ce que tout soit beau, tout soit parfait, ou pour l'amener au niveau du pasteur, qu'il règle les problèmes des personnes. Savez-vous que le pasteur ne peut pas régler les problèmes des personnes? C'est Dieu qui règle les problèmes. Le pasteur est là pour conduire à Dieu. Puis d'ailleurs, il y a un psaume là-dessus. Non pas à nous, non pas à nous, mais à toi soit la gloire. Si le pasteur règle les problèmes, c'est lui qui aurait la gloire. D'ailleurs, il y a des cultures pastorales qui amènent à ça, où est-ce que les pasteurs sont quasiment adulés comme étant des héros, alors qu'on est tous de la même nature, faibles, et on a juste des rôles différents. Mais une chose qui est plus difficile encore pour moi personnellement, c'est souvent cette pression-là issue aussi sur la famille pastorale, qui n'est pas supposée avoir de problème. Ou pour une famille ici qui arrive, qui vit des choses, puis on n'est pas supposée avoir de problème, puis on n'en parle pas. Mes amis, c'est faux. C'est une place où est-ce qu'on devrait pouvoir être vrai, puis pouvoir dire ces choses-là, c'est bien l'Église du Dieu vivant, parce que c'est pour ça qu'on se rassemble, on a besoin les uns des autres. Puis il n'y a pas personne qui est au-dessus des problèmes, puis incluant les dirigeants. Mais je veux dire, on est tous là. Hein. Tu sais, il y a des gens qui ont des difficultés, puis que c'est plus dur. Pour ça, tu sais, qu'on ne veut pas condamner, mais comme, justement, tu sais, bon, on a une soeur que c'est plus dur en ce moment, puis tu sais, on a une famille qu'on parlait aussi, là, eux, c'est la mère. Ça l'affecte, ça, c'est quoi? Ils sont pas là, puis, hey, wow, tout est beau, puis arrive. Non, il faut qu'on prie pour eux autres. Il faut qu'on les supporte. On est là les uns pour les autres, pour se supporter, s'exciter à l'amour puis au bon Dieu. C'est tellement important, mes amis. Je veux aller à fond là-dedans avec ce message-là. C'est un message où est-ce que je vous explique beaucoup de choses pour mettre la terre, si vous voulez, puis on va voir brièvement des points par rapport à ça, mais je veux juste vous dire que cette culture-là, elle est grave et elle est dangereuse. Parce que ça l'isole, les gens. Puis ça nous réfugie dans une hypocrisie. Puis aussi, ça peut mettre des gens sur un piédestal. Oui, ce qu'ils ne devraient pas être. Non, on a besoin, comme je disais, de supporter les uns les autres, puis de se garder de l'orgueil, parce que quand on est dans une bulle, puis qu'on est tout seul dans notre bulle, puis qu'on ne veut pas être vrai avec les autres, on est dans un piège d'orgueil, de mensonge qui nous garde de l'amour et de la vérité. Et le problème fondamental de cette culture, c'est que c'est une culture de mensonge qui n'est pas en harmonie avec 1 Pierre 5:5. Qui nous dit, connaissez-vous 1 Pierre 5:5? Dans toutes vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Dans une église, là, ce qui devrait caractériser les relations d'une église, c'est l'humilité. Puis l'humilité, c'est l'inverse de l'hypocrisie, le mensonge. C'est de reconnaître, gars, moi, je ne suis pas meilleur que personne, puis comme tout le monde, j'ai des problèmes, des difficultés, puis ça dit, pourquoi? Parce que Dieu qui est au milieu de nous, là, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux anges. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose de tellement important qu'on considère dans le message de ce matin. Puis je dirais que le problème aussi, si on pousse un peu plus pour comprendre ça, il y a de l'orgueil par rapport à ça, par rapport à... C'est qui règle les problèmes? C'est sûr que Dieu utilise des gens, puis il y a des mains dans ses... Il y a des instruments dans ses, des instruments dans ses mains rédemptrices. Mais c'est Dieu qui règle vraiment les problèmes. C'est une chose qu'on se rend compte en tant que parent. Dans nos rôles, des fois, d'influence, on se rend compte, mon ami, on peut tellement peu faire pour vraiment régler les choses. On ne peut pas travailler dans un cœur, on ne peut pas convaincre quelqu'un, on ne peut pas sauver personne, on peut témoigner, mais on ne peut pas sauver. On peut parler à quelqu'un et montrer la bonne voie, mais on ne peut pas, tu sais, nos enfants qu'on aime prendre la décision à leur place. Et comme j'ai dit, malheureusement, c'est dangereux, ça produit des dommages collatéraux, parce que ce qu'on croit va diriger comment nous allons agir. Notre croyance est importante par rapport à notre conduite. Et ainsi, ça donne des églises qui deviennent esclaves du mensonge, alors que nous avons été libérés par Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que c'est tellement important. Christ, notre Rédempteur, au sein de l'Église locale. Et le Seigneur est bon, il nous ouvre les yeux là où on est aveugle, il nous montre là où est-ce qu'on a besoin de voir des choses qu'on ne voyait pas. Autrement dit, le Seigneur nous délivre de nous-mêmes dans une Église comme la nôtre, dans le pratico-pratique, puis il fait ces choses-là au milieu de nous autres. Et savez-vous quoi? C'est ça qui arrivait aussi à Éphèse. Paul leur parle ici sur des choses qu'ils ne voyaient pas tout, mes amis, puis on va en parler un petit peu, mais... On voit ici, il s'adresse à l'église d'Éphèse dans le livre des Actes. Il y a un épître au complet qui est écrit. Et on apprend dans cet épître-là que il y avait des choses extraordinaires que le Seigneur leur révélait. Tu sais, on apprend plus tard avec cette église-là d'Éphèse encore dans le livre des Actes. C'est une église qui est référée trois fois dans la Bible. Elle a bien fait ici ce que Paul a dit, mais elle avait abandonné son premier amour. Vraiment, je veux qu'on tire leçon de tout ça pour être délivré des tendances, des pièges de notre chair, parce que c'est ce qui est arrivé aux autres. La chair, soit moi qui dirige dans une culture de mensonges. Et je pense que le Seigneur est en train de faire ça en ce moment au milieu de nous autres. Comme je disais, oui, ça a commencé, c'est pas d'hier. Je pense que spécialement 2020-2021 a joué un rôle important là-dedans, bénéfique pour nous libérer. Mais là, je pense que même les choses avancent encore plus, prennent un autre tournant et faut être vigilant. On va le voir là avec trois exhortations dans notre texte, mais il faut qu'on soit très conscient que il y a deux sagesses. Dieu veut nous révéler qu'est-ce qui nous anime. Puis je lis le passage, vous allez le voir par vous-même. Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce que c'est dans nos cœurs un zèle amer, un esprit de dispute? Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne vient point d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Que Dieu nous protège de ça, mais au contraire, qu'il nous amène à cette sagesse d'en haut qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble brièvement avec trois exhortations par rapport à Christ, notre rédemption dans l'Église locale. D'abord, on a vu au verset 28, et je vais le relire. La première exhortation, c'est « Prenez garde ». « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Prenez garde. La vérité est sous attaque dans une culture de mensonges. Il faut prendre garde de marcher dans la vérité et pas dans l'hypocrisie, parce que vraiment ici, la question de la vérité, c'est pas juste, des fois on pense à la vérité, une liste de doctrines qu'on suit, puis tout ça, puis c'est certainement que la vérité, elle est dans la parole de Dieu, elle est écrite, mais plus que ça, Christ est la vérité incarnée, et nous, son corps, nous devons aussi incarner la vérité. Finalement, c'est pas juste des belles paroles, mais comme dit Jean, n'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Incarner l'amour. Fait que ça veut dire quoi? C'est pas juste des belles paroles qu'on dit, c'est d'être vrai, de l'être, pas juste de le dire et de paraître, mais de l'être fondamentalement vrai. Et savez-vous quoi, pour le leadership de l'Église, pour arriver à ça, c'est pas compliqué. Paul, il leur dit, avant d'avoir dit ça, là, de prendre garde, Paul, lui, en tant que dirigeant, en tant que leader spirituel auprès de cette Église, il leur dit simplement que il est pur du sang d'eux tous parce qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. La responsabilité première du leadership spirituel, c'est de prêcher la parole, en toute occasion, favorable ou non, reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Et tout ça baigné dans la puissance de la prière. C'est ce que je pense, c'est quand j'ai référé à ça, je pense que c'est dans le message de dimanche après-midi, la semaine dernière, le leadership de cette église naissante dans le livre des Actes au chapitre 6, sont revenus à ça, la parole, la prière, puis c'est pour ça que les premiers diacres ont été institués, qui ont été installés comme ça dans l'Église, parce qu'ils voulaient garder cette emphase sur la parole et la prière. Et donc, prêcher la parole et toute la parole, ce qui est confortable, ce qui est inconfortable, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, tout le conseil de Dieu. Et si c'est ça qui dirige l'Église, la parole de Dieu, Dieu va la garder. Parce que c'est Dieu qui garde avec la vérité. Ta parole et la vérité, sanctifie-les par ta vérité. On veut pas être une église qui font les choses de façon pragmatique, oh, ça paraît bien. Non, on veut marcher selon la parole. Que ça soit populaire, que ça soit que les gens aiment ça ou non, c'est pas ça la question. C'est est-ce que Dieu aime ça? Puis est-ce que Dieu, c'est ce qu'il nous demande de faire? Ça, mes amis, de diriger comme ça selon la vérité, c'est le rôle d'évêque du pasteur. Ici, il y a le mot évêque dans le verset 28, hein, que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je trouve un peu, puis en anglais aussi, ça fait ça, pour nous, dans notre culture moderne, quand on parle d'évêque, on manque un peu le sens du terme. Évêque, on pense, ici au Québec, on pense à un monseigneur. Alors que le mot, si on lisait dans la langue originale, ça veut simplement dire, il vous a établi surveillant. Ceux qui surveillent, qui regardent autour littéralement, qui ont ce rôle de veiller, de prendre garde. Et donc, parce que il y a des dangers, il y a des loups, il y a des hommes cruels, on va voir ça, mais c'est ça. Donc, le rôle de surveillant, remarquez que c'est pas juste même une fin en tant que telle, ça dit que le Saint-Esprit a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Fait que c'est pas juste, ah là, t'as couru après tous les dangers qu'il peut y avoir. Non, c'est, vous êtes établi évêque pour paître. L'idée de paître, c'est prendre soin. Donc, on surveille afin de mieux prendre soin. On surveille les dangers afin de prodiguer les bons soins. Comprenez-vous? C'est pour écarter le danger afin de bien prendre soin. Autrement dit, comme le berger qui est dans son champ, il veut pas juste qu'il n'y ait pas de loups puis que les ours et tout ça soient loin, mais c'est parce qu'il veut bien s'occuper de son peuple, sinon il va être dérangé à courir après des loups partout. Mais une fois qu'il fait ce rôle de surveillant, il peut bien s'occuper du troupeau. Et ce moyen par le Saint-Esprit de prendre soin. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait, qui l'a établi. D'où l'importance d'être dirigé par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu, mais toujours selon la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça dit dans 1 Jean 2:27, « Pour nous, l'onction, ça c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu, demeure en nous. » Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le réel enseignement, le réel berger ici, c'est le Seigneur, Dieu le Saint-Esprit qui nous dirige, mais toujours dans toute la vérité. Dans toute la vérité, c'est jamais en contradiction. Si on arrive à quelque chose qui est en contradiction avec la parole, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige selon la parole. Ça m'amène à la deuxième exhortation, non seulement celle-là de prendre garde, mais au verset 31, il y a l'exhortation à veiller. Ça dit « Veillez donc! » On va commencer au verset 29, vu qu'on avait arrêté là. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et savez-vous, on apprend dans la suite des choses de cette église-là, spécialement dans le livre de l'Apocalypse, que effectivement les leaders de cette église ont chassé les loups, ceux qui enseignaient des doctrines contraires. Je vais vous le lire, là, ça dit dans Apocalypse 2, 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » On peut vraiment leur accorder ici le fait d'avoir écouté les exhortations de Paul, ce qu'on voit dans le verset 29 et 30. Ils ont écouté, ils ont dit, ce que Paul nous dit, c'est sérieux, on va le mettre en pratique. Mais, les loups sont devenus tellement leur centre d'attention qu'ils ont perdu le focus sur leur premier amour. Parce qu'on sait que cette même église, dans le verset juste après, dans Apocalypse, elle dit, « Mais est-ce que j'ai contre toi? c'est que tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, ils se sont tellement occupés aux affaires du roi qu'ils ont négligé de passer du temps, la communion avec le roi. Hier, on a eu un bon message le matin par rapport au fait qu'on voyait des différents exemples. Puis celui qui a prêché, Frère Couture, il dit... J'ai fait un espèce de survol de la Bible pour trouver des gens qui avaient comme ça un courage qui se distingue. Puis il dit, j'ai vu 18 exemples. Je ne peux pas faire un message à 18 points, mais on était dans Daniel. Puis enfin, il n'y a même pas eu le temps de regarder en grand détail Pierre et Jean dans le livre des Actes. Mais il montrait comment notre courage est relié, les racines dans lesquelles notre courage va pousser, c'est notre communion avec le Seigneur. Ça n'arrive pas boum comme ça. C'est quand on cultive notre relation avec le Seigneur, va en découler le courage. Et dans une culture d'église déficiente, ce besoin de veiller, si le besoin de prendre garde par rapport à la vérité, le besoin de veiller, c'est par rapport à l'amour. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas veillé au niveau de l'amour. Ils ont pris garde par rapport à ceux qui menacent la vérité, mais n'ont pas veillé sur leur propre cœur par rapport à l'amour qui est bon, qui est patient et qui est sans hypocrisie. Parce que non seulement c'est une culture de mensonge, mais s'il n'y a pas l'amour, on va tomber dans le piège d'un zèle amer, un esprit de dispute. On va essayer de faire la bonne chose, mais de la mauvaise manière. Et ça, ça tue le vrai amour. Donc, le besoin vraiment de comprendre quand on veille ce qui est dit dans Galates, chapitre 6. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est pas juste d'avoir la vérité, puis c'est fondamental d'avoir la vérité. Mais il faut la mettre en pratique, la vivre dans l'amour, dans le but de d'aider, de restaurer, de soutenir. J'aimerais juste vous partager une chose. Je parlais tantôt, des fois la culture aussi, ce qui est entré avec... le pasteur, la famille pastorale, tout ça. Savez-vous que des fois, c'est dur pour un enfant de famille pastorale d'être dans une église? Parce qu'il y a tellement d'attentes. Il y a de la pression. Puis pour eux, ça devient dur d'être vrai. Parce que là, ben là, je suis un enfant de pasteur, je ne suis pas supposé. Je suis pas supposé avoir ce problème-là. Je ne suis pas supposé. Ben quoi? Oui, comme tout le monde. Je veux dire, vous savez quoi? Les enfants qui grandissent dans une famille chrétienne, là, ils ont des luttes, ils ont des doutes, ils ont... OK? Si vous pensez que c'est pas normal, c'est vous qui êtes pas normal dans votre compréhension des choses. Quoi? On vient pas d'une autre planète, là. On est tous des gens de la même nature, là. Non, puis je dis pas ça méchamment, mais c'est, je veux dire, c'est une culture de mensonge, ça n'a pas rapport, je veux dire, comme tout le monde. Mais, je veux dire, on est une famille bien ordinaire comme tout le monde, c'est juste qu'on a un rôle différent des autres. Mais j'aimerais juste amener ici comment, justement, la vérité dans l'amour, ça fait toute la différence. L'autre jour, ma fille, elle a été... puis là, bon, hey, là, je vais dire, j'ai pas demandé les permissions, mais... Non, mais c'est juste... Non, mais ma fille est allée chez les... il y avait un temps de communion fraternelle et tout ça, chez... excusez-moi. Elle est allée chez les Deschênes, juste comme ça. Ils m'ont invité, hey, de faire un tour. Puis j'étais tellement encouragé. Du fait qu'elle est allée là, puis elle s'est sentie libre de juste pouvoir être qui elle était. Amen. Puis dire ses luttes. Puis elle a été aimée là où elle était. Vous savez pas comment ça, c'était important pour nous autres, ça. Désolé, là, c'était pas prévu, ça. Mais pensez-y.
N'est-ce pas qu'on soupire tous après cet accueil mutuel dont ça parle dans la parole? Je vais vous lire. Écoutez, Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on fait ça, on est les bras du Rédempteur qui sont ouverts comme ça. Et je dirais que c'est spécialement important pour des gens dans le ministère, parce que, savez-vous quoi, l'ironie, souvent, c'est que la famille pastorale, malheureusement, puis je dis famille parce que c'est pas juste le pasteur, mais souvent, ils vivent du rejet. Sous différentes formes. Puis ils n'ont pas de place pour aller se tourner. Et ça, c'est pas normal. Puis que des frères et sœurs, dans la toute simplicité de cœur, comme ça, vivent cet amour de Christ. C'est merveilleux.
Amen.
On en veut plus de ça.
Amen.
Ça devrait pas être rare. Ça devrait être la norme. Et pensez-y. Si vraiment il y a cette vérité dans l'amour qui est pratiquée, les uns envers les autres, cet accueil, et qu'on veille comme ça les uns sur les autres, ça va donner vraiment l'édification. Ça va donner, c'est lui, c'est le Seigneur, c'est lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je crois que nous, millions, on était forts sur la vérité et faibles dans l'amour. Comme l'Église d'Éphèse. Et le Seigneur veut nous libérer de ça. Veut nous donner la liberté d'être vrai, la liberté d'être faible, la liberté de faire des erreurs, la liberté d'avoir des doutes, la liberté de ne pas tout être speak and span. C'est une culture de mensonge. Puis ceux qui sont dans des milieux comme nous autres, on a été pendant des années, vous savez de quoi je parle, puis est-ce que ça porte du bon fruit? Non, ça nous isole. Puis en ce sens-là, le rôle du pasteur, le rôle d'évêque, c'est pour surveiller selon la vérité, le rôle de pasteur, de prendre soin, c'est qu'il veut le faire avec les gens, mais bien plus que ça, il veut enseigner que les gens le font les uns les autres. C'est là toute la beauté. L'Église, c'est pas un one-man show. Il y a toujours un leadership et tout ça, mais c'est tout le concept de multiplication.
Amen.
Quand Moïse faisait tout lui-même, il, comme on dit en québécois, il capotait bien raide. Mais, lorsqu'il a confié, puis que ça l'a allégé la tâche, ça l'a permis à tout ce beau monde-là d'avancer beaucoup plus allègrement. Et donc, le rôle d'évêque, le rôle de pasteur, mais aussi même le rôle d'ancien, l'idée de maturité, ça va nous amener vers le prochain point, mais juste avant, je voulais dire quelque chose. L'amour, c'est la voie par excellence. L'amour, c'est le lien de la perfection. Et sans ça, on ne sert à rien. Pensez-y, là. Paul, dans 1 Corinthiens 13, là. Il dit que quand même qu'il y aurait tous les dons et toute la capacité d'un superman spirituel, s'il n'y a pas l'amour, là, voici ces mots-là qui dit « je ne suis rien », puis il dit « tout ça ne sert à rien ». Puis, est-ce que vraiment on le comprend? Parce que des fois, je suis tellement attristé de voir des chrétiens avec la bonne volonté qui vont dire la vraie chose à la personne, mais ils la blessent, ils la heurtent, puis ils brisent parce qu'il manque l'amour. Fait que t'as beau dire toute la bonne affaire, mais si t'as pas l'amour, ça sert à rien. Puis même, ben, ça sert à rien de bon, mais ça va servir à quelque chose de destructeur. Je pense qu'on a perdu beaucoup de jeunes, de gens qui sont venus dans nos églises parce qu'on manquait de cet amour. Et ça, mes amis, ça l'émane du premier amour, de notre premier amour. Lorsqu'on est sécure dans l'amour de Christ, lorsqu'on en est tellement reconnaissant, ça va déborder dans nos relations. Ça ne vient pas de nous. Le Saint-Esprit est répandu, l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Puis c'est avec notre relation avec Dieu que cet amour-là a toute cette liberté de s'exprimer. Puis c'est là qu'aussi dans les moments, parce que c'est pas facile d'aimer. C'est pas de la sentimentalité, l'amour. L'amour, c'est d'aimer quand la personne n'est pas aimable. C'est de supporter quand on est au bout du rouleau dans cette relation-là, que ça nous a tiré tout le jus. C'est là le test de l'amour. Et lorsque ça arrive, on arrive à la troisième exhortation, non seulement prendre garde, veiller, mais le troisième, édifier. Verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » En fait, ça, c'est pas vraiment une exhortation parce que c'est Dieu qui édifie, mais il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu que ça nous dit, ça nous exhorte à nous édifier les uns les autres. Mais c'est le Seigneur, ultimement, qui édifie. Parce que je relis ce verset que j'ai lu tantôt dans Éphésiens 4:16. C'est « De lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement, ou son, okay, son, ça, il grandit, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et cette édification, le Seigneur le fait par, oui, la direction de l'Église, avec la parole de Dieu, puis tout ça, puis, mais aussi tout le ministère mutuel des uns envers les autres, qui embarque dans cette direction, qui cherche la même chose. Parce qu'on l'a vu, hein, on ne vit pas pour nous-mêmes, puis on ne devrait pas faire un cas de notre vie. Puis ça dit que soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Je veux dire, c'est pas comme si moi je suis le plus important dans le show. En fait, je vais vous donner un bon passage à ce sujet-là. Romains 15:1-3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est en vue de l'édification. Car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages, je dis, c'est pas facile d'aimer, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il y a un coup à aimer. Des fois, ils disent, ah ouais, mais c'est tout, ah, ça fait quétaine. Puis, mais non, l'amour biblique, c'est tough. C'est l'amour de Christ qui est maltraité, qui est battu, qui va à la croix, qui subit la colère de Dieu. C'est ça l'amour biblique. C'est l'amour qui paye le plus grand prix. Mais ça produit du fruit. Parce que ça nous dit dans les versets suivants, dans Romains 15, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Lorsqu'il y a cette édification mutuelle, il y a une louange qui monte à Dieu, la gloire revient à lui, puis la beauté de Christ est manifestée dans une église locale comme la nôtre. Amen. Et je l'ai dit tantôt, nous sommes des instruments dans les mains de notre Rédempteur. Mais c'est lui qui amène la restauration, c'est lui qui délivre, c'est lui qui édifie. C'est une œuvre de grâce qui ne doit pas être entravé, attristé par les interventions de notre sagesse humaine. Et là, je vais amener quelque chose d'important par rapport à ça. On parle d'édifier. Et on parlait hier de ça dans l'auto. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Des fois, c'est mieux de rien dire ou juste de dire « Je prie pour toi. Je t'aime. J'ai compassion de ta situation. » Des fois, c'est mieux juste de rien dire que d'arriver avec des conseils fâcheux, des paroles. C'est-à-dire, les paroles dites à propos, c'est bon. Mais des fois, c'est juste pas à propos. On pense aider, puis on rempire. Puis, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que des fois, dans notre sagesse humaine, ce qui va résulter de ce qu'on a pu avoir dit, c'est au lieu de produire la libération, l'édification de notre frère, notre sœur, c'est l'esclavage. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a parlé de zèle amer, d'esprit de dispute. Savez-vous pourquoi on a un zèle amer et un esprit de dispute? Savez-vous c'est quoi qui est en dessous de ça? Savez-vous que l'iniquité qui dirige ça? C'est quand on relie, quand on est en interaction avec les autres, seulement à la lumière de la loi. Je les ai dit seulement. La loi, elle est bonne, elle est parfaite. Mais si c'est tout ce que j'ai dans mes relations avec les autres et que je ne vois pas au-delà de ça, ben tout le monde n'est pas correct. C'est ça qu'a dit la loi. C'est quoi? Elle a raison. C'est quoi? C'est vrai que tout le monde n'est pas correct. On a toutes des affaires qui ne marchent pas. Parce que si c'est la fin, si c'est tout ce que je vois, ben là, je vais être aigri, puis là, je ne serai pas content, puis ça ne va jamais marcher avec personne. Parce que c'est ça le rôle de la loi. Elle marche parce qu'elle nous montre que ça tourne pas rond. Mais lorsqu'on voit, selon la grâce de Dieu, que oui, il y a un problème, mais que Dieu est plus grand, puis que oui, ça l'arrête, mais que c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la fin de la route. Ah! Là, on va être animé de cette sagesse d'en haut. Puis comment qu'elle est, cette sagesse d'en haut? À cause que la motivation est différente, parce que la motivation n'est pas simplement, boum, ça s'arrête à la loi, mais croit que Dieu est capable de faire quelque chose avec ça, même les situations les plus dures, ben là, ça va produire une sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Quand je marche avec la loi, là, seulement, là, ben je veux pas que les gens sachent, parce que ça produit la duplicité puis l'hypocrisie. On veut pas être vrai. On n'a pas la liberté d'être vrai. On est dans une culture de mensonges. Mais quand on croit que la grâce de Dieu nous rencontre là où la loi nous a montré qu'on a trébuché, là où ça ne marche pas, qu'on croit que la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde, il y a de l'espoir. Puis on peut être vrai, puis c'est, savez-vous quoi? C'est tellement libérateur. Puis on n'est plus pogné dans notre coin. Puis on peut avoir de l'aide. Puis on sait tout, celui qui nous aide vraiment, je l'ai dit, c'est vraiment le Seigneur. Mais le Seigneur a aussi conçu qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Mais il faut être vrai. Puis juste aussi pour que vous compreniez, c'est pas de tout commencer à tout déballer, les affaires honteuses, puis tout ça, là. C'est inapproprié de faire ça. Mais sans avoir à tout déballer, tout ce qui est honteux, ce qui se fait en secret, on peut certainement être vrai sur le fait que, hey, j'ai la misère avec ça, la misère avec ça, puis... OK? Puis... On a une famille pastorale, missionnaire ici, formation, sont avec nous autres et tout ça. On a une famille pastorale dans cette église. Avez-vous pensé que souvent ceux qui aident le plus, c'est ceux-là qui ont besoin de plus d'aide, de soutien, de ministère mutuel, mais que malheureusement, c'est souvent ceux qui en ont le moins? Qui sont isolés et souvent qui se sentent jugés sous la pression de performer, d'être à la hauteur. Le Seigneur n'a pas conçu les choses pour être comme ça. Puis je voudrais pas qu'on accueille cette belle famille missionnaire dans cette atmosphère-là. Mais qu'on puisse suivre comme c'est écrit dans Galates. Ah, oh, c'est beau ce que je vais vous lire là dans Galates, chapitre 5. Versets 13 à 18. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, la sagesse humaine, nos façons humaines de répondre comme ça. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, on parlait de la loi, là. La bonne loi de Dieu est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais... si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi de Dieu. Autrement dit, si je conduis par l'Esprit, je vais aller au-delà de simplement m'arrêter à la loi. Le Saint-Esprit va toujours m'amener à voir Christ comme l'espoir dans ces problèmes-là. Amen. Comprenez-vous? Amen. Si je suis conduit par le Saint-Esprit, je vais aller plus loin. Vous qui êtes spirituel, redressez-le, voyez-vous. Celui qui est spirituel, c'est pas qu'il voit pas les problèmes et qu'il est mort en dessous de la couverte. C'est qu'il recherche à redresser, c'est qu'il voit plus loin, c'est qu'il voit Christ là-dedans, puis il voit l'occasion que Dieu donne. Puis il arrive pas comme pour juger, puis mettre une pression. Il arrive là humblement, sachant que, prenant garde à lui-même, sachant que lui-même peut avoir, parce que c'est aussi dans Galates tantôt. Attends, je vais vous le lire, ce verset-là. Voyons, il est où? Il était-tu au bord de la page? Oui, c'est ça. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est-à-dire, si j'arrive là, puis que je pense que, hey, moi, je vais dire à cette personne-là, elle a donc bien de la misère, tu sais, on va s'en virer de bord, on va dire, sais-tu, toi, comment tu as de la misère avec cette chose-là? Faut faire attention quand on joue à ça, parce que le Seigneur a le tour de nous montrer comment on est tous dans le même bateau. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Soyons humbles. Dans tous nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité. Cette culture de mensonge vient de l'orgueil et de l'incrédulité. L'orgueil par rapport à se penser plus fort qu'on est, puis penser qu'on peut régler nos problèmes, puis l'incrédulité, de croire que, je veux dire, les problèmes, c'est la fin. Non, les problèmes, c'est le début. Le problème, c'est là que Dieu part pour faire son œuvre. C'est comme ça qu'on doit voir, qu'on doit se voir les uns les autres. Donc, le Seigneur est tellement bon, il nous ouvre les yeux sur ces choses pour nous libérer de la pression, de la performance. Savez-vous quoi? C'est du terrain qu'on a cédé à l'ennemi en tant qu'Église. C'est vrai. Pour ça, je vous dis, c'est vraiment sérieux. Mais la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. L'ordre est important. Si je veux être capable de résister au diable, il faut d'abord que je me soumette à Dieu. Dans l'humilité et la foi. Et dans le contexte de Christ, notre Rédempteur dans l'Église locale, et par rapport à cette culture de mensonge à laquelle on a parlé, on a besoin de s'humilier par rapport au fait d'avoir cédé, d'être rentré dans la tromperie de ce modèle mondain, incrédule de l'hypocrisie, puis aussi, tu sais, une personne, une famille, aide tout le monde, puis eux, ils ont pas besoin d'aide, ou moi, si j'ai un problème, je suis pas normal, puis je devrais cacher ça. Non, c'est un problème, t'es normal. On a tous des problèmes. Comprenez-vous? Que ça nous libère de ça. Et savez-vous quoi? C'est tellement fort. La semaine prochaine, on va parler de ça, mais le monde dans lequel on est a tellement soif, presque à l'agonie, de voir du monde vrai. Ils sont tannés du fake. Tout est fake partout, fake news, fake leader, fake tout. Puis l'Église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. C'est une place où on devrait être vrai. Amen. C'est bien l'Église du Dieu vivant, n'est-ce pas? Amen. Donc que Dieu puisse continuer cette œuvre. Dieu est bon parce qu'il nous amène là, là, pour qu'on embarque dans ce que lui est en train de faire. Pour qu'on croie que, oui, il y a du péché. Mais que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Des fois, on coupe des versets en deux, c'est comme, ah, il y a du péché, c'est grave. Faut ça... C'est vrai, il y a du péché, c'est grave. Mais as-tu pensé que la grâce de Dieu est plus grande? As-tu pensé qu'il y a un problème, mais que Dieu est la solution? Écoutez ce verset de Romains. Je vais vous lire une couple de versets, ça va être ça ma conclusion. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si face à nos problèmes, si face à cette culture de mensonge, on n'a pas d'espérance, on est les plus malheureux des hommes. Mais si on croit ensemble que, hey, Dieu est en train de faire de quoi? Wow! Dieu nous montre un problème parce qu'il est la solution. Dieu veut nous montrer qui il est. Dieu veut nous montrer sa beauté. Dieu veut nous montrer sa grâce, sa toute-puissance. On devrait être heureux de ça. On ne devrait pas s'abattre du fait qu'il y a des problèmes. On devrait y voir l'opportunité que Dieu est en train de mettre devant nous pour se manifester. Et j'ai parlé d'espérance. As-tu... L'espérance dans la Bible, c'est pas « Ok, j'espère, je tire 25 cents, j'espère que je vais tomber sur face parce que j'ai dit pile ou face. » Non, c'est une attente certaine. La Bible parle de l'espérance comme de quelque chose. On ne l'a pas encore, mais on l'attend parce qu'on sait que ça va arriver, c'est certain. Est-ce que tu as cette espérance certaine par rapport à la vie éternelle? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es lavé dans le sang de Jésus de tous tes péchés? Est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance? Et je vous lis là-dessus, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Écoutez aussi 1 Pierre chapitre 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, ça veut dire né de nouveau, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si vous n'êtes pas sauvé, vous avez à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ maintenant pour le salut de votre âme. Et pour vous qui êtes un enfant de Dieu, et c'est une question importante, je termine avec ça, je ne sais pas si j'ai prêché longtemps. Ah, un petit peu. On n'aura pas été esclave du temps, n'est-ce pas? J'essaie de m'en libérer. On a prié plus longtemps le matin, tant mieux, les meilleurs moments c'était à la fin, ça y est, nous a mis des affaires, je veux dire, pas qu'on capote avec un horloge, là. On aurait été un peu plus africain dans notre cœur. Plus centré sur le monde que juste le temps. Ouais, il y a des mauvais côtés des fois, là, mais bon, on aurait juste être correct. Non, mais une question importante, est-ce que vous faites partie du problème ou de la solution de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie de ceux qui renforcent la culture de mensonges? Ou ceux qui, tant bien que mal, rien n'est parfait sous le soleil, mais qui la combattent? Vous savez quoi? Je crois qu'on a à s'humilier, se repentir face à cette tromperie de culture mensongère. D'être transformé par le renouvellement des... Parce que ça fait partie de la conformité au siècle présent. Ça ne vient pas de Dieu. On doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et croire dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. On te remercie, Seigneur, tu es le Dieu vrai, bon, vivant. Et tu aimes notre Église, Seigneur, tu as été tellement bon. Seigneur, c'est incroyable comment tu es fidèle envers nous autres. Je vois ta main de tellement de façons. Mon cœur se réjouit en toi ce matin de ta fidélité, de ta grâce. Mais Seigneur, tu vois, on a toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de problèmes. Mais Seigneur, on refuse de vivre là. On refuse de s'arrêter là puis de faire notre tente comme si c'était la fin du parcours. Mais Seigneur, on regarde à toi et on croit que Christ est suffisant et que là, où le péché abonde, sa grâce surabonde, que ces problèmes, c'est des tremplins pour nous plonger dans l'océan de ta gloire, de ta liberté, de ta grâce. Seigneur, libère-nous de cette culture de mensonge, qu'on soit vrai, qu'on ait cette liberté d'être faible, d'être des fois laid, on peut dire, d'une façon, pas juste pick and span, mais non, on l'a pas tout. Mais tant mieux, Seigneur, c'est parce que tu veux nous libérer, tu veux nous faire expérimenter ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. On te loue, on te bénit. Seigneur, que le peuple ici rassemblé en ton nom réponde à ce que tu viens de nous dire maintenant. Garde le focus sur ce qu'on a vu ce matin. On veut répondre précisément à ça. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.